Nous allons poursuivre notre méditation sur l'union à Dieu. L'union à Dieu est tellement fondamentale dans nos vies d'hommes qu'il nous a semblé nécessaire d'y revenir afin d'approfondir ce qui est la seule véritable et abondante source du bonheur des hommes. De nouveau, la question se pose. Être uni à Dieu, qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? Nous savons déjà qu'être uni à Dieu, c'est accepter sa volonté en suivant sa loi d'amour. Tiens, encore une fois, nous nous retrouvons face à la loi de Dieu. Cependant, nous ne nous y attarderons pas, car ce n'est pas notre sujet. Tous les saints ont été unis à Dieu, même pendant leurs plus dures épreuves. Attention, nous ne devons jamais confondre, comme certaines personnes le font, l'union à Dieu avec des manifestations ou des événements extraordinaires, comme peuvent en vivre certains mystiques. Mais encore une fois, nous devons ajouter que si tous les mystiques sont étroitement unis à Dieu, et si le Seigneur leur réserve parfois quelques consolations sensibles, c'est généralement pour les préparer à des missions très délicates et toujours très difficiles. Le Seigneur leur donne ainsi la foi et les forces dont ils auront un grand besoin. Mais nous, pauvres hommes ordinaires, comment pouvons-nous être unis à Dieu ? Bien sûr, en observant les commandements de Dieu, en priant beaucoup et en vivant une véritable charité. Mais cela ne peut se faire que si nous avons une vraie foi, doublée d'une grande espérance. Ces deux vertus théologales marchant généralement ensemble, nous allons nous attarder un peu sur l'espérance, cette vertu si difficile dans notre monde d'aujourd'hui où Jésus semble se taire. Recueillons-nous, unissons-nous à Dieu et essayons de le contempler. Immédiatement nous pensons, mais que pense Dieu de notre monde à l'envers, notre monde qui vénère le mal, qui maudit le bien, qui souille les petits-enfants, qui exalte l'impudeur, qui ardore l'argent, qui profane la croix et les hosties consacrées, qui se moque des vrais chrétiens. Que pense Dieu de ce monde terrifiant? Pourquoi Dieu se tait-il toujours? Pourquoi ne réagit-il pas? Alors que devons-nous espérer? Et peut-on espérer encore quelque chose? Curieusement, alors que trop de gens comptent sur la science moderne pour se défaire de Dieu, les découvertes scientifiques actuelles confortent la foi de nombreux croyants. Les récentes visions de l'univers que les athées utilisent pour faire croire au néant fortifient notre pensée philosophique qui s'écrit « Le néant, quelle stupidité !» Le néant, c'est la pire des sottises dans son illogisme absolu, car rien ne peut rien faire. On méprise Dieu, on le rejette, on ne veut pas de lui. On chasse toutes les pensées qui pourraient faire comprendre combien les raisonnements concernant la foi sont valables. La réalité, c'est que, surtout, on ne veut pas de la volonté de Dieu, donc de ses commandements. Alors Dieu nous laisse faire jusqu'à ce que nous prenions conscience de notre malheur. Dieu attend, et c'est pourquoi il semble se taire. Et Jésus se tait aussi. Ou semble se taire, car en réalité, il parle à quelques personnes. Ces personnes apparaissent comme une minorité, et nous nous demandons pourquoi Jésus ne parle pas à tout le monde. C'est alors que brusquement nous réagissons. Mais si, Jésus parle à tout le monde. Le problème, c'est que le monde ne veut pas l'entendre. Quant à nous qui nous croyons vraiment chrétiens, le bruit qui nous entoure nous empêche souvent de comprendre ce que Jésus nous dit. Lorsque nous disons « bruit », nous pensons surtout aux médias menteurs, et voici quelques exemples. Incontestablement, nous sommes en route vers Babel, cette œuvre humaine grandiose, mais tellement orgueilleuse, où Dieu brouilla le langage humain et multiplia les langues pour ramener les hommes à un peu d'humilité. Et le phénomène Babel recommence constamment. Nous connaissons la Révolution française, conséquence des Lumières sans Dieu. Nous nous souvenons du nazisme et du communisme, de leurs dictatures effrayantes et de leur guerre mondiale. De nos jours, c'est l'islam qui se répand partout dans le monde. Mais si nous regardons les pays musulmans, nous constatons partout les mêmes réalités. Tout d'abord, l'extrême pauvreté des peuples qui y vivent. En effet, partout où l'islam s'installe, la pauvreté s'installe aussi, malgré les immenses richesses des pays concernés, richesses confisquées par quelques-uns. Par ailleurs, les rivalités et les massacres religieux qui s'installent dans ces pays sont effrayants. Mais les médias cachent la vérité et nous abreuvent de sottises. Alors on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé avec la mort de Nelson Mandela. Pendant 10 jours, les médias n'ont parlé que de cela, et cela permettait d'occulter les vraies informations. Oui, mais notre espérance. Considérons l'histoire de notre Église. Immédiatement après le départ de Jésus, les hérésies ont afflué, mettant l'Église en grave danger. Et cela a permis de clarifier certains points obscurs de la compréhension qu'avaient les apôtres de l'enseignement de Jésus. Et l'Église put continuer sa route. Malheureusement, les hérésies continuèrent, et l'islam arriva. Immédiatement après l'Égir en 622, l'islam commença ses combats et envahit tous les pays du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen. Les guerres furent atroces, mais la France fut protégée grâce à Charles Martel, qui, en 732, bâtit les Arabes à Poitiers. Avec les Turcs, l'islam poursuivit ses atrocités, d'où la nécessité des croisades. Mais en 1571, il y eut la bataille de Lépante. Entre-temps, l'Église sembla se briser sur le grand schisme de 1054 qui coupa l'Église en deux, les catholiques et les orthodoxes. Puis vint la réforme protestante, mais l'Église tenait toujours. Notre espérance avance. Pourtant, Satan continuait ses attaques contre l'humanité et l'on vit apparaître ce que l'on a appelé le siècle des Lumières, avec toutes ces déviations philosophiques qui ont conduit à la Révolution française et aux autres révolutions, avec toutes leurs actions anticléricales et leurs meurtres très nombreux. Mais l'Église tint bon, et les saints se multiplièrent curieusement, malgré l'anticléricalisme ambiant. Puis vint Marx, de 1818 à 1883, d'où naquirent le communisme, puis le nazisme, et les guerres et les massacres incroyables qui y étaient liés. Et l'Église était toujours là, multipliant ses actions charitables, malgré les persécutions dont elle était de nouveau l'objet. Que de sujets d'espérance! Pourtant, Satan continue à nous poursuivre de sa haine, et l'humanité est probablement arrivée aujourd'hui à la période la plus dramatique de son histoire, car ce sont les chrétiens eux-mêmes qui se sont détachés de l'Église et de la vérité de Dieu. De plus, presque partout dans le monde, les législations instituent l'avortement légal, les dérives sexuelles, l'euthanasie, tout ce que le Seigneur a interdit depuis le commencement du monde. Peut-on espérer encore? Oui, peut-on encore vivre avec l'espérance que le Seigneur nous demande? Que voyons-nous dans notre monde? Tout ce qui a attaqué l'Église au cours des siècles se manifeste simultanément, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Le communisme est toujours à l'œuvre en Chine, en Corée du Nord, à Cuba, en Amérique latine. Et dans les pays ex-chrétiens, que voyons-nous? De nouvelles idoles, telles que l'argent, le pouvoir et surtout le sexe. De nouvelles hérésies, dont les sectes, comme le New Age, y se sont multipliées. Et maintenant le laïcisme qui cache l'athéisme. Partout, les martyrs et les persécutions d'origine islamique se multiplient. L'athéisme qui détruit toutes les croyances chrétiennes prêche l'inexistence de Dieu, donc la réalité du néant. Le mensonge règne partout et les chrétiens qui ont encore la foi sont persécutés. Notre Église n'a presque plus de prêtres ni de religieux. Les détresses morales, les malades psychiques sont de plus en plus nombreux. Et nous préférons ne pas parler des suicides des jeunes et des personnes âgées. Alors, l'espérance, normalement, elle se manifeste quand tout semble perdu. Or, tout ce qui se passe aujourd'hui est tellement consternant que nous avons bien du mal, si l'on est conscient, à vivre encore d'espérance. Car de plus, non seulement on s'attaque aux adultes, mais également aux jeunes et aux enfants. Et l'islam se répand à une vitesse affolante. Alors, curieusement, on commence à apercevoir un retour à Dieu. Le néant ne peut exister puisque nous existons. et Dieu profite de nos erreurs car il ne veut pas détruire son œuvre. Dieu nous avait donné un mode d'emploi. Revenons à ce mode d'emploi, sa loi, car c'est le bonheur. N'oublions jamais que Dieu n'est pas un Dieu impersonnel, mais un Dieu intelligent et qui aime son œuvre. Donc Dieu nous aime, et il veut que nous répondions à l'amour, d'où la liberté qu'il nous laisse. Écoutons Dieu et répondons à son amour. Dieu a appelé certains hommes, Abraham, Moïse, Élie, David, puis Marie et Joseph. Ils ont entendu Dieu parce qu'ils l'écoutaient. Jésus, Verbe de Dieu, Dieu unique sur la terre, est avec nous, avec chacun de nous. Il s'est uni à notre humanité et à chacun de nous, et il veut que nous nous unissions à lui. Il nous apprend l'union à Dieu. Tous les saints nous ont appris, parfois avec de grandes souffrances, que le bonheur est seulement en Dieu, que le bonheur de l'être humain ne se trouve qu'en Dieu, pour ne faire qu'un avec lui. Et cela sans nous détruire, et dans l'espérance. Car l'union à Dieu se fait toujours dans la foi et dans l'espérance. Essayons d'aller plus loin dans notre compréhension de l'union à Dieu. Pensons encore aux nombreuses hérésies qui ont blessé l'Église en profondeur, notamment aux hérésies qui furent la cause du grand schisme en 1054, séparant l'Église d'Orient de l'Église d'Occident. Certes, les causes de ce schisme furent surtout des rivalités d'hommes, mais aussi la renaissance de la bataille concernant le filioque, c'est-à-dire la question « Le Saint-Esprit procède-t-il du Père ou du Père et du Fils ?» qui en fut l'opportunité. À cela, il faut ajouter quelques conflits concernant des territoires. On se disputa également sur le célibat des prêtres, la date de Pâques, la liturgie, et autre chose sans grand intérêt pour notre foi. Pour le commun des mortels, dont nous sommes presque tous, les discussions de ces théologiens responsables nous semblent vraiment dérisoires. Comment, lorsqu'on a de grandes responsabilités dans l'Église, peut-on oser se comporter ainsi ? Certes, les hommes responsables ont pour mission de préciser notre foi et les manières de la vivre, mais aujourd'hui, les hommes ne comprennent plus rien. Seigneur, nous revenons à toi. Tous, nous voulons avoir raison, et nous sommes obligés de constater combien est belle la vertu d'humilité. C'est elle qui nous rapproche le plus de Dieu, car elle nous montre notre réalité. Oui, nous existons. Nous ne sommes que des créatures, très petites, minuscules, mais destinées à former le corps du Christ. Seul Dieu peut nous enseigner ces vérités, car si nous voulons les découvrir par nous-mêmes, non seulement nous ne découvrons rien, mais nous inventons des hérésies qui nous éloignent de Dieu que nous recherchons pourtant. Alors humblement, nous comprenons enfin que sans Dieu nous ne pouvons rien. Lui seul est notre vie, nous tenons tout de lui, et il nous aime, et nous ne désirons que lui. Nous cherchons sa volonté exprimée dans sa loi, nous sommes unis à Dieu.